Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous, c'est vendredi. On est ensemble, il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est parti pour deux semaines de ski, de biathlon, de patinage, de luge, de bobsleigh aussi. Les Jeux Olympiques d'hiver commencent aujourd'hui en Italie avec une cérémonie d'ouverture originale puisqu'elle se déroulera à quatre endroits différents. RMC est déjà sur place en direct ce matin. Vous allez voir dans le journal que les collégiens n'ont pas vraiment le goût de l'effort. Un jeune sur cinq n'est pas capable de courir plus de 3 minutes, chiffre qu'on vous a révélé sur RMC. Et vous allez entendre la gérante du bar de Cromontana, un centre la nuit du Nouvel An. Elle a de nouveau été auditionnée cette semaine.
Les Jeux Olympiques d'hiver sont donc de retour en Europe.
Après 4 éditions loin des Alpes, ce sont des Jeux nouvelle formule puisqu'ils ne vont pas se dérouler à un seul endroit, mais dans tout le nord de l'Italie, de Milan jusqu'à Cortina. Il y a 7 sites de compétition. Vous en entendez à l'hymne officiel qui sera diffusé ce soir lors de la cérémonie d'ouverture. Léna Marjac, vous êtes en direct avec nous ce matin. Une des nombreuses journalistes d'RMC mobilisées pour couvrir cet événement mondial depuis la station de ski précisément de Bormio. Ça va donner une cérémonie d'ouverture originale ce soir.
Oui, une cérémonie finalement à l'image de ces Jeux, une cérémonie éclatée, dispersée, et là dispersée donc sur 4 sites. D'abord à Milan, au stade de San Siro, où une grosse partie de la cérémonie se déroulera avec notamment une star attendue, la chanteuse américaine Mariah Carey. Une première vasque olympique sera allumée à Milan par Alberto Tomba, l'ancien skieur italien, triple champion olympique. Et puis une deuxième vasque à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites, autre lieu de la cérémonie. Enfin, Predazzo et Livigno sont les deux derniers sites de cette grande soirée et d'ouverture des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, nos porte-drapeaux, le skieur alpin Clément Noël et la snowboardeuse Chloé Trespoche défileront à Livigno. Et là aussi, pas de défilé d'athlètes tous réunis dans un seul lieu. Les délégations seront dispersées sur ces 4 sites.
C'est inédit. Donc, Léna, la France fait partie des grandes nations des sports d'hiver. Et d'ailleurs, on y va avec de grandes ambitions à ces Jeux Olympiques.
21 médailles, c'est l'objectif fixé à cette délégation française composée de 162 athlètes. Alors évidemment, pour l'atteindre, on va compter sur le biathlon. En toute logique, c'est le gros pourvoyeur de médailles, avec notamment Éric Perrault et Lou Jean Monod, les deux leaders de la Coupe du Monde. En ski alpin, Clément Noël tentera aussi de défendre son titre olympique en slalom acquis il y a 4 ans. Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry seront eux aussi très attendus en patinage artistique. Et il ne faut pas oublier cette nouvelle discipline, le ski alpinisme. On grimpe dans la montagne à l'aide de pots de phoque sous les skis, puis on la redescend. C'est hyper physique, c'est impressionnant. Donc retenez bien ces deux noms, Émilie Arop et Thibaut Anselmé, deux grands favoris au titre olympique.
On a bien retenu Léna Marjac et on va vous retrouver, vous et tous les journalistes d'RMC mobilisés, pendant ces deux semaines, cette quinzaine de Jeux Olympiques a commencé donc par cette cérémonie d'ouverture ce soir à 20h. Vous ne raterez rien de ces Jeux sur RMC, radio officielle. Je vous signale aussi que la presse italienne change de couleur pour l'occasion. Vous connaissez la Gazzetta dello Sport. Eh bien, la Gazzetta a troqué le rose, qui est sa couleur emblématique, pour un bleu glace ce matin. Alors chez nous en France, ce sont les Bleus du rugby qui font la une de l'actualité au lendemain de leur victoire, je dirais même leur belle victoire, 36-14 contre l'Irlande. C'était le début du tournoi Destination, match exceptionnellement un jeudi avec un doublé hier soir de l'ailier bordelais Louis Biel-Biarré. Alors on parle beaucoup de sport ce matin dans l'actualité et pourtant on vous révèle aussi depuis hier sur RMC ce constat alarmant, dirons-nous, puisque plus de la moitié des élèves en classe de 6e ont un niveau en sport jugé insatisfaisant. À 11 ans, écoutez bien, à 11 ans, un jeune sur 5 n'est pas capable de courir plus de 3 minutes sans s'arrêter. C'est le résultat d'une enquête inédite de l'Éducation nationale qui a fait passer des tests de sport à l'entrée en 6e. Amélie Courtet, on a interrogé quelques-uns à Créteil pour RMC.
Le sport pour ces élèves de 6e, c'est 4 heures par semaine au collège.
Les horaires, ça va, juste faut changer les sports là.
On court trop, ça fait trop mal aux mollets.
Courir, c'est chaud. C'est
tellement chaud que le niveau des 6e s'essouffle. Il est satisfaisant pour à peine un élève sur deux en force musculaire et en vitesse, et c'est pire en endurance. Seulement un élève sur 3 a un niveau correct.
Courir 5 minutes sans vous arrêter, vous êtes capable?
Ça dépend de la vitesse. On peut pas faire un sprint pendant 5 minutes.
C'est un peu épuisant des fois.
Oui. En plus, les profs, ils en demandent trop. On
fait de notre mieux.
Faire de son mieux, surtout que les performances sportives sont très liées au milieu social des élèves, d'après l'enquête du ministère de l'Éducation nationale.
Payer des licences sportives, etc., faut avoir les moyens.
Benjamin Nouvian, professeur de PS dans un collège, s'inquiète pour la santé de ses élèves.
En fait, on leur fait un test tout simple de souplesse, d'aller essayer de chercher nos pieds en étant les jambes tendues. On a plein d'élèves, ils descendent à peine en dessous des genoux, en fait, en termes de raideur, qui est un peu inquiétante, effectivement.
L'enquête montre aussi un écart de niveau en fonction du sexe. À l'âge de 11 ans, les filles sont encore moins sportives que les garçons.
Alors, ils n'ont pas le goût de l'effort et Emmanuel Macron lui se demande s'ils n'ont pas un problème avec les jeux vidéo. Dans la foulée du drame de Sanary-sur-Mer, l'adolescente de 14 ans qui a été écrouée et mise en examen pour tentative d'assassinat sur son enseignante mardi, eh bien, le président relance le débat en demandant une étude scientifique sur les effets des jeux vidéo chez les jeunes, en évoquant une possible interdiction pour ceux qui sont dangereux. Il y a du nouveau dans l'enquête sur le drame de Crans-Montana, la nuit du Nouvel An, avec de nouvelles auditions cette semaine en Suisse, comme celle de Jessica Moretti, la gérante du bar Le Constellation, qui a été interrogée par les enquêteurs. Elle a aussi écrit avec son mari une lettre adressée à leurs salariés. Salarié qui s'était ému du silence du couple Moretti depuis le drame. C'est pour les raisons de l'enquête, a dit Jessica Moretti hier soir, écoutée au micro de BFM TV.
Le silence qui nous a été contraint est devenu insoutenable. Quand on a commencé à comprendre en fait la détresse des employés qui pouvaient se dire qu'on ne prêtait pas attention, qu'on n'a pas essayé de les contacter, et je peux comprendre leur colère légitime, je peux comprendre cette détresse. Et ça nous était devenu vraiment insoutenable d'envisager qu'en plus de tout ce qu'ils ont traversé, ils peuvent penser qu'on les a abandonnés. C'est très très loin d'être le cas, c'est juste par rapport à l'enquête. On vit complètement isolé, on n'a contact avec absolument personne, mais on se devait absolument d'écrire cette lettre. Elle vient vraiment du cœur, et pour vraiment témoigner à nos employés que quoi qu'il arrive, ils restent dans nos cœurs, dans nos pensées, ce sont nos protégés, et même dans notre isolement, on est avec eux.
Et je vous précise qu'aujourd'hui, c'est le responsable incendie de la commune de Crans-Montana qui sera auditionné. Les négociations aux États-Unis-Iran ont commencé depuis une heure environ ce matin à Oman, sous tension, vous savez, dans le contexte de la répression iranienne et des menaces américaines, avec toutes les incertitudes que ça fait peser sur la région. L'Iran appelle, je cite, au respect mutuel.
Il est 8h07 sur RMC. La campagne municipale s'envenime à Paris.
Oui, Paris, où le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire, a eu la mauvaise surprise de voir la police intervenir lors d'une opération de porte-à-porte dans le 7e arrondissement de la capitale, qui est dirigée par la candidate de la droite, Rachida Dati. Et donc Romain Cluzel, du service politique à RMC, la gauche accuse la droite d'intimidation.
Parce que ce porte-à-porte dans un immeuble de logements sociaux, il avait lieu dans le 7e arrondissement de Paris. Et selon l'équipe d'Emmanuel Grégoire, ce n'est pas anodin, Rachida Dati est maire de cet arrondissement. Alors Yann Brossat, sénateur PCF et candidat sur la liste d'Emmanuel Grégoire, estime que Rachida Dati est à l'origine de cette intervention.
Madame Dati considère que son arrondissement lui appartient, que les immeubles, y compris les immeubles de logements sociaux dont elle ne voulait pas, lui appartiennent. Et donc elle ne veut pas que ses adversaires politiques et la possibilité de s'adresser simplement aux habitants de son arrondissement.
Il s'appuie sur un courrier de Rachida Dati datant de 2024, où elle dénonçait déjà un porte-à-porte du Parti communiste dans cet immeuble. Pour autant, Rachida Dati dément toute intervention. Ce sont des habitants qui ont appelé la police, et en aucun cas, elle ou son équipe, nous ne sommes pas concernés par cette affaire, insiste une porte-parole de Rachida Dati.
On parle des municipales, je vous signale que c'est le dernier jour pour s'inscrire en mairie sur les listes électorales. Et puis le début des vacances scolaires, ce vendredi pour la zone B, Bordeaux, Lyon, Grenoble notamment, ça veut dire qu'il y aura du monde dans les stations de ski où le risque d'avalanche est encore élevé, niveau 4 sur 5 dans les Alpes du Sud, il a neigé sur un manteau instable.
Soyez donc prudents si vous y êtes. Merci Quentin Vinet, il est 8h09, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et revoilà ma prime rénove, Emmanuel, le chiffre, elle est de retour dans quelques jours.
Effectivement, alors on va le rappeler, MaPrimeRénov', c'est une aide financière mise en place par l'État en 2020 pour accompagner les familles dans la rénovation énergétique de leur habitat, jusqu'à 90% des travaux remboursés pour les familles les plus modestes, dans la limite de 70 000 euros, à condition d'être le propriétaire du dit logement, le dit logement qui doit aussi avoir plus de 15 ans. Alors le dispositif avait d'abord été restreint en septembre aux ménages les plus modestes, puis suspendu en janvier, faute de budget. Mais comme nous avons à nouveau un budget, enfin non, comme nous avons enfin, oui, pardon, un budget pour 2026, eh bien, le dispositif sera relancé courant février pour financer en priorité les rénovations globales et puis certaines rénovations particulières comme le changement d'une chaudière ou de fenêtre.
Qui pourra en profiter ?
Alors, à nouveau, tout le monde, même s'il y a évidemment une dégressivité dans les aides. Plus vos revenus sont élevés, moins vous serez aidé. Le problème, c'est que ça se bouscule déjà au portillon. L'Agence nationale de l'habitat prévoit de financer 150 000 travaux de rénovation isolée, 120 000 rénovations globales, sauf qu'il y a déjà 83 000 dossiers qui ont été déposés en 2025 et qui sont d'ores et déjà dans la file d'attente. Et donc, oui, ce sera long. Il va falloir prendre son petit bâton de pèlerin pour avoir son dossier.
C'est quoi la part de MaPrimeRénov dans le budget? Ça coûte combien
Ça coûte 3,6 milliards d'euros. C'est autant que l'année dernière. Là où l'État s'en sort bien, c'est qu'en fait, il va en financer moins cette année lui-même, puisque ce sont les fournisseurs d'énergie, vous savez, grâce à ces certificats d'économie d'énergie, qui vont prendre une part plus importante. Alors après, reste le parcours du combattant, création de son compte, définition de son projet de travaux, obtenir les devis, déposer le dossier, attendre l'accord, réaliser les travaux, puis demander le paiement. Ouf, juste la principale erreur à éviter, il y en a plusieurs, des écueils, mais il y en a quand même une qu'il faut éviter, c'est de signer un devis avant d'avoir l'accord. C'est-à-dire que vous demandez les devis, vous envoyez votre dossier, et une fois que vous avez l'accord, vous validez les devis. Mais ne vous embarquez pas dans la signature d'un devis si vous n'avez pas l'accord. Imaginez, vous n'avez pas l'accord, vous avez signé le devis,
et vous retrouvez bloqué.
Et vous retrouvez de votre poche.
Merci Emmanuel. 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'historien Jean-François Colosimo. Il est passionnant, ne le manquez pas. Et puis juste après, il y aura la semaine face à Canteloup, bien sûr. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h14, quel bonheur. Arnaud Demange, comme tous les jours. Bonjour Arnaud.
Bonjour tous mes amis. Comment allez-vous?
Ça va?
Juste avant le week-end, ça doit faire du bien. Bonjour. Apolline, je sais que vous êtes une femme de culture. Vous êtes une femme Télérama. Vous êtes une femme Barbara Gould. Alors, une infoculture qui va vous plaire. Michel Houellebecq sort un album.
J'adore.
De la musique.
J'avoue que j'aime
Houellebecq. Ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment idée sur l'avenir.
Voilà, comme si le mois de février n'était pas assez sinistre comme ça. Alors, vous avez vu, il ne s'emmerde pas à chanter, non. Mais point de vue son, ça va. Et il faut l'encourager. Hein. Je vous rappelle que l'an dernier, à la même époque, il s'essayait au porno amateur.
C'est vrai, je l'oublie.
On y gagne, il y a un upgrade. Au moins, il est habillé. Et puis, on ne va pas critiquer. Essayez de chanter sans dents. Hein,
oui.
Allez-y.
Non,
et alors, une autre petite actu. Ce soir, c'est le début du tournoi des Six Nations. Pour les amateurs de rugby, c'est la fin du Dry January. C'est le début du Beuvry February. Après, il y aura le Vomi March et le Six Roses April. C'est une arnaque de dire Six Nations. Il y a la Grande-Bretagne, ils comptent l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. C'est triché. Évidemment que le Royaume-Uni a plus de chances de gagner, là. C'est, compté comme ça, c'est comme si nous, les hommes, on se la mesurait à partir des épaules. Ça ne compte pas, quoi. C'est triché. Je le dis avec mes mots à moi. Et vous avez compris, c'est une réalité mathématique à prendre
Mathieu
en compte.
Mathieu ne va pas s'en remettre, je crois. Et puis, tant qu'on parle de sport, tiens, c'est le début des Jeux Olympiques d'hiver, donc de Milan-Cortona.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
C'est moi qui m'ai trompé.
C'est bien Cortina, ouais. Parce que...
Ouais, c'est Cortina. Bon. Et oui, vous pourrez suivre toutes les épreuves sur RMC. Soyez là pour la cérémonie d'ouverture. Même si ce ne sera pas Thomas Joly à l'organisation, ce sera bien quand même. C'est dommage, il l'aurait présenté avec Daphné Husky. Et on a travaillé des mois entiers. On va mettre Philippe Catherine tout nu dans la neige. Là, il va vraiment devenir bleu. Il va y avoir Aya Nakamura au sommet d'un glacier qui va chanter son plus grand tube. Oh, gla, gla. Il n'y a pas moyen, gla, gla. Et puis, vous pourrez écouter sur RMC Vincent Moscato parler de patinage artistique. Il est spécialiste. Gilbert Bribois de parler de curling. RMC, l'after curling, Gilbert Bribois.
Eh oui, on est sur l'after curling, premier podcast de France sur le curling. Faut dire qu'on est les seuls de France à avoir un podcast sur le curling. Cette discipline passionnante, Daniel, où les joueurs passent le balai sur la glace. Daniel, tu aimes le curling, Daniel?
Ouais, super, ouais, génial. J'en regarde tous les jours quand je vois les femmes de ménage passer le balai chez Picard en bas de chez moi, mais à part ça, c'est super.
Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel, c'est du curling Daniel.
On pourra donc découvrir ou redécouvrir le curling, le skeleton, le slopestyle. Vous connaissez le slop style? C'est pas Jean-Marc Morandini qui réunit 10 stagiaires non. et qui juge. Hein.
Ah, allez Mathéo, montre-moi ton slop. Waouh, trop stylé.
C'est pas ça le slop style. Vous avez vu qu'il a pris une nouvelle place, Morandini? Ils sont en train de se faire un championnat avec Jack Lang. Là, en pédocriminalité sur glace, on a des chances de médaille. Hein. En fait, alors vous mettez un gamin au bout d'une patinoire, vous lâchez les deux et...
Allez, concours de slop stylé. Je filme. Jeffrey Epstein m'a donné 50 000 euros pour recruter et payer les acteurs. On va faire un film. Je m'en fous, personne me met en garde à vue. Et en plus, si je vais en prison, j'aurai juste à rester près du radiateur et à laisser tout le plastique en moi fondre et à me glisser entre les barreaux comme le T-1000 dans Terminator 2.
Bref,
c'est bien fait pour lui. Bref, c'est quoi vraiment le slop style? Oui, parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet. C'est une discipline de snowboard. C'est du snow, Apolline. C'est un peu entre le pipe, le half jump, le street blade et le skating. Yeah. En fait, les riders jumpent sur des pipes, en battle jack, bien entendu, pour que leur slope fit bien dans le game et les jackknives de leurs slow blades doivent impérativement rider sur le smooth. Sinon, le flex n'est pas dans les bonnes vibes. En tout cas, c'est l'occasion de finir la semaine avec un petit quiz.
Ah ouais,
attention.
Est-ce que ce sport a déjà été programmé aux Jeux Olympiques d'hiver? A gagné un séjour pour 4 personnes, tout frais payé à Courchevel. C'est la direction qui offre. C'est sympa.
C'est sympa, merci.
Attention, vous êtes prêts?
On y va.
Patrouille militaire de montagne.
Oui.
Oui. En 1924, c'était un genre de biathlon.
Dis donc, c'est pas toi, Mathieu.
Très balèze, mais il a écouté Arthur Chevalier hier. En 1928, il y a eu une épreuve de construction d'igloos synchronisée.
Non,
ils n'ont pas fait. Non, mais tu t'es fait avoir.
C'est dommage, c'est vrai que ça aurait
été. Le pentathlon d'hiver en 1940. Ski de fond, tir, équitation, escrime.
Ouh là là, ça fait beaucoup.
Sur glace. Non,
escrime sur glace.
Non, ils ont fait. En 48.
Danger.
Escrime sur glace. 400 mètres nage libre en torrent de montagne.
Oui.
Non, parfait. Ce serait marrant, mais non.
Pino à moins de.
En 2026, ils ont fait l'épreuve du 10 km voiture dans Paris sous 2 cm de neige.
Ils l'ont fait, bien sûr.
Le record est de 8 jours d'ailleurs. En 1942, l'Allemagne organise des championnats du monde de nazisme sur glace. Sur un lac gelé. En 1992, il y a une épreuve de bataille de boules de neige emportée par le Togo.
Non, quand même pas.
En 1936, pétanque sur glace.
Ça s'appelle le curling.
Oui, alors c'est de l'ice stock, c'est un cousin du curling. En 2012, en Russie, il y a eu une épreuve de lutte torse nu contre un ours polaire.
Poutine.
Oui, il y a eu des photos de Poutine. Dans sa ski, 92 à Albertville.
Ils l'ont fait.
C'était tellement beau. Comment tu danses à ski? Il faut regarder le truc. Faut s'appuyer sur les bâtons.
Faut regarder les Jeux Olympiques d'Albertville. Bon week-end. Merci Arnaud. Arnaud qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment. Et en tournée partout en France.
Partout,
avec un nouveau spectacle. Il sera à Biarritz, à Lyon, à Tours, à Épinal, à Versailles ou à Besançon. Versailles, ouais. Vous allez chez vous. Hein,
je vais chez moi.
À la maison.
Je vais en ski.
C'est un spectacle RMC.
C'est la rubrique du grand.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe de Com, une école du réseau compétences et développement.
Allez, sans transition, on va accueillir tout de suite Corentin qui nous appelle de Tours et qui est conducteur de car. Bonjour Corentin.
J'appelle de Fougères, mais c'est pas grave.
Ah, vous êtes à Fougères. Au moment où on se parle, à 8h21, vous êtes à Fougères. Vous avez déjà pris le boulot, là, à cette heure-ci, Corentin?
Là, je viens de finir. J'ai rien dans la journée à part mes scolaires.
Donc, on est là. Donc, on est là avec vous.
Voilà.
Corentin, vous vouliez réagir à la question des jeux vidéo. Faut-il interdire ou non les jeux vidéo? Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Vous jouez aux jeux vidéo, vous, Corentin?
Oui, je joue depuis 6 ans.
D'accord.
J'en ai aujourd'hui 30. Enfin, okay. dans un mois.
Oui.
Donc, perso, niveau jeux vidéo, je connais assez bien. Et j'ai joué à tous les jeux violents possibles, du GTA, Call of, etc., etc. Et je vois pas en quoi ça rend violent un enfant. Jamais il m'est venu l'idée d'aller tenter mon professeur ou aller tabasser quelqu'un parce que je joue aux vidéos, en fait. Et je trouve ça hallucinant que le président veut interdire les jeux vidéo parce qu'il pense ça. Enfin, je comprends pas là-dessus.
Pour vous, il n'y a pas de relation entre les deux. Alors, ce que dit exactement Emmanuel Macron, c'est qu'il faut réfléchir à la possibilité d'interdire aux mineurs les jeux les plus violents. Probablement ceux que vous évoquez à l'instant. Merci en tout cas d'avoir témoigné à l'antenne. Corentin, qui nous appelait donc de Fougères et qui dit que jouer aux jeux violents ne rend pas violent dans la vraie vie. Il est 8h22 dans un instant. Mon invité pour le face-à-face, c'est Jean-François Colosimo, historien, spécialiste aussi de la question des religions et qui vient d'écrire ce livre sur l'Occident qui serait désormais la cible numéro 1 mondiale. On revient avec Jean-François Colosimo sur l'opposition, mais en même temps les négociations qui commencent aujourd'hui entre États-Unis et Iran. Ça se passe sur RMC BFM TV, il est 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci d'être avec moi ce matin. Vous êtes historien, théologien, auteur de ce dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. C'est chez Albin Michel. Et je voudrais également mentionner l'un de vos livres plus anciens, 2009, mais qui est toujours dans l'actualité, Le paradoxe persan incarnait iranien. Il y a depuis 7 heures ce matin des négociations, officiellement en tout cas, à Oman, et le monde entier a les yeux rivés sur ce qu'il va se dire, se passer, ou si quoi que ce soit va en sortir. États-Unis, Iran, dernière négociation peut-être avant qu'il n'y ait des frappes. Tout est prêt en tout cas côté américain, et c'est ce qu'il continue à dire, et ce que Donald Trump a continué à dire cette nuit. Est-ce qu'on peut négocier avec les bourreaux? Est-ce qu'il faut négocier avec des bourreaux? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations?
Alors d'abord, je pense que ces négociations, elles permettent à chaque partie en présence, les Iraniens d'un côté, à les Américains de l'autre, de gagner du temps. Gagner du temps, les Américains, pour en fait véritablement décider quel va être leur type d'intervention, n'est-ce pas? Et les Iraniens pour, je dirais, faire monter la pression et essayer d'empêcher cette intervention en montrant la capacité de représailles qu'ils ont et qui est aujourd'hui très très grande et menaçante pour les États-Unis.
Il reste une menace pour vous, les Iraniens. Alors, évidemment, on va ensuite parler de ce qui se passe dans le pays, parce qu'on a presque l'impression que dans cette histoire, le peuple iranien, la révolte iranienne a été oubliée. Je vais y revenir évidemment dans un instant. Mais sur cette question de la menace militaire, de la guerre qu'ils se font pour l'instant de manière froide, mais qui pourrait rebasculer vers une guerre active. L'Iran dit, nous sommes une menace, il y a la question nucléaire, il y a la question des missiles balistiques, et évidemment il y a la question dans la région, des bases militaires américaines, d'Israël, pas très loin.
Oui, alors vous avez parfaitement raison, la menace iranienne, elle tient dans ces fameux missiles balistiques qui font que, en fait, ces missiles, il leur faut 10 minutes en fait pour arriver sur Israël et frapper Israël. Les Israéliens et les Américains s'étaient un peu vantés lors de la fameuse guerre de 12 jours en juin d'avoir éliminé en quelque sorte l'arsenal iranien. Aujourd'hui, ils disent le contraire. En fait, l'Iran garde assez de missiles pour percer ce fameux dôme de fer avec lequel Israël entend se protéger. Deuxièmement, l'Iran met le paquet et explique qu'il y a des chiites partout dans la région et il y a encore ces proxys qui certes sont décapités, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, mais qu'il y a de quoi faire encore pour véritablement mener une politique de terreur qui d'ailleurs pourrait aussi frapper les pays alliés des États-Unis et des États-Unis eux-mêmes sur leur sol. Et puis, il y a le pétrole. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est faire en sorte que, en fait, d'un coup, le prix du pétrole explose, s'envole, et les économies occidentales sont menacées, n'est-ce pas? Donc, il y a toute cette capacité-là, et en fait, ce que veut l'Iran, l'Iran veut simplement que garder son pouvoir de nuisance. Que veulent les Américains? Que l'Iran renonce à son pouvoir de nuisance. C'est ça, le fameux débat qu'il y a là en ce moment à Oman.
Oui, mais alors quand on le présente comme ça, je ne vois pas comment ces deux intérêts absolument antagonistes peuvent se rencontrer.
Tout à fait. Et donc en fait, ils se rencontrent. Pourquoi? Pourquoi? Ben, encore une fois, pour gagner du temps, pour évaluer aussi les résistances de part et d'autre, les capacités, les facultés de détermination. Et puis les Américains, leur problème, ce n'est pas de faire de l'Iran un pays démocratique, c'est d'éliminer le guide. Mais pour le remplacer par qui? Alors, on a vu, n'est-ce pas, que lors des manifestations, le prince Pahlavi, à l'héritier du Shah d'Iran, avait une certaine célébrité. Mais les États-Unis ne parient pas sur lui. Les États-Unis, ils ont fait une grande expérience en Irak. Ils ont vu que lorsqu'on élimine le régime Saddam Hussein, on se retrouve avec l'État islamique, n'est-ce pas? Donc là, en fait, il parie sur quoi? Sur un gardien de la révolution qui irait lui-même assassiner le guide pour le remplacer.
Que ça se passe effectivement en interne, en quelque sorte. Question, Jean-François Colosimo, vous parlez du guide, vous parlez des chiites. Est-ce que vous pouvez prendre un instant pour nous redire de quoi il s'agit, de qui il s'agit, comment cette organisation fonctionne et quel est son réseau d'influence?
C'est-à-dire, vous voulez dire le fameux croissant chiite,
République islamique d'Iran. Oui. C'est quoi, c'est qui?
Alors,
et qui en est le chef?
On a tort de dire que c'est une théocratie parce que ça veut rien dire. C'est un terme vague, très très franco-français pour dire que c'est religieux. C'est une oligarchie politico-religieuse. Cette oligarchie, elle repose sur quoi? Sur une mutation du chiisme. L'imam Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a adopté, en fait, l'islamisme sunnite, l'islamisme des frères musulmans, et il l'a greffé sur le chiisme, il s'est institué, en fait, guide qui dit la loi, loi divine, qui a aussi une valeur, donc, politique, temporelle. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? En fait, à travers la révolution, et à travers la guerre, parce que l'Irak fait 10 ans de guerre en notre nom, l'Irak socialiste, laïque, fait 10 ans de guerre à l'Iran de Khomeini, dans cette révolution et dans cette guerre, un peu comme en 1793, sortent deux aristocraties, deux castes, les Mollahs, les clercs, les religieux, et les Pasdaran, les gardiens de la révolution, et en fait, ces deux classes se répartissent dans un système très compliqué de conseils, de comités qui entourent le guide, etc. Ce sont des mafias qui ont leur clientèle. 25% de la population iranienne dépend de ces têtes de pont mafieuses, n'est-ce pas? Et vous avez ce régime-là qui va être très difficile de changer. Donc, il faut en fait quoi? Trouver quelqu'un qui, à l'intérieur, fera de cette république islamique une république, je dirais, militaro-dictatoriale.
Qui soit moins dur pour sa population, et je voudrais quand même que l'on y revienne, Jean-François Colosimo, parce que c'est le drame aussi de cette séquence, comme on dit, c'est-à-dire de ce moment. Ça a commencé fin décembre par une mobilisation populaire, une mobilisation populaire pour plus de pouvoir d'achat, pour plus de liberté, pour pouvoir effectivement retrouver une liberté. Déjà, il y avait eu, avant cela, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et à chaque fois, ce sont des massacres, ce sont des gens qui sont ciblés. Comment est-ce qu'ils peuvent, d'eux-mêmes, sans l'aide extérieure, renverser ce régime?
Et sans aide extérieure, c'est impossible, pour la simple et bonne raison que les gardiens de la révolution, dans toutes les grandes villes, tiennent des casernes, n'est-ce pas, et reposent, en fait, eux-mêmes, les gardiens, sur un surarmement total, et eux, ils ont envie de rester au pouvoir, évidemment, encore une fois, c'est la source de leur prospérité mafieuse, ils reposent sur des milices, les Basijis, qui encadrent la population de manière permanente.
On les a vus, c'est ceux qui sont sur les motos, qui viennent, qui tirent,
les jeunes,
les gens qui tirent même dans la foule.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que malgré tout, vous êtes face à un Iran qui est un pays, il faut le rappeler, formidable. 3000 ans de civilisation, c'est pas un petit pays, c'est pas, et puis il y a ce culte de la liberté qui est mêlée aussi à un culte du martyr. Regardez ces femmes, le courage. Regardez ces civils, n'est-ce pas? Mais attention, ce culte du martyr, cette culture du martyr, elle est de l'autre côté aussi.
Du côté des guides suprêmes, du guide suprême, du côté des Pasdaran, c'est aussi dans cette logique-là.
Il y a un cercle très fort autour du guide, c'est ce qu'on appelle les Ojadiyeh. C'est une secte qui est née en 1950, qui attend le retour du Mahdi, le retour de l'imam caché, le retour...
Une sorte de messie?
L'arrivée de Dieu sur Terre, un messie. C'est un messianisme apocalyptique, c'est-à-dire que le messie va arriver dans une immense déflagration. Et je vous donne en mille qui était l'un des grands patrons de ce groupe initiatique, C'était Mahmoud Ahmadinejad. Vous vous souvenez, le fameux président qui niait la Shoah, qui était un jusqu'au-boutiste dans la guerre, etc.
Le lien que vous faites quand vous dites qui niait la Shoah, il y a la question, évidemment, de l'antisémitisme intrinsèque
du régime. Pas du peuple.
Du régime, évidemment, du régime islamique d'Iran. Est-ce que, dans ce contexte-là, le fait qu'Israël n'ait pas l'air de pousser les États-Unis à intervenir, comment vous le lisez?
Mais c'est assez simple, c'est que Israël n'a pas envie de prendre les représailles iraniennes de plein fouet, parce que ces représailles iraniennes sont encore trop importantes. Il faudrait donc une campagne de bombardement plus sûre que la dernière pour, en quelque sorte, décapiter la nuisance iranienne. Et puis, il y a les pays alentours.
L'Arabie Saoudite.
Les Émirats. Tout ça, ça se passe à Oman, qui est une plaque tournante de la diplomatie.
Pourquoi
dans la
Oman
région. Parce qu'il y a eu un chef d'État formidable qui, a su faire d'Oman d'abord un pays très particulier qui respecte ses traditions. C'est pas Dubaï, c'est pas Abu Dhabi. C'est Oman est une grande tradition de commerce avec l'Inde. Vous voyez, et donc par rapport à ça, cet Oman, il a su en faire un pivot non partisan dans une région où il n'y a en fait que des passions exacerbées. Et donc, on se rend à Oman pour parler. Là, on peut pas en fait parler ailleurs.
C'est le dernier endroit où les uns et les autres peuvent donc se parler.
Oui, mais regardez bien tout de même que les Saoudiens, par exemple, ont interdit, en principe, aux Américains la traversée de leur espace aérien. Ce qui veut dire que toute la région tremble, en fait, véritablement d'une espèce de tourmente un peu apocalyptique tout de même.
La région tremble, il y a cette menace apocalyptique comme vous dites. Jean-François Colosimo, je voudrais en revenir aussi au titre de votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. Est-ce que cette tension que vous décrivez aussi dans votre livre, elle est à l'œuvre y compris sur ce territoire-là?
Oui, c'est-à-dire que sur ce territoire-là, on voit bien, parce que c'était ça aussi, cet Occident, il n'existe pas, il n'existe plus en tout cas. L'Amérique ne joue plus le jeu de la défense de la démocratie dans le monde, c'est officiel, enfin. Et nous voyons bien, nous disons, ces gars de la Révolution sont des totalitaires, ils le sont, ils ont massacré 30 000 personnes en quelques jours, c'est impossible. Eh bien, Trump s'assoit là-dessus. Ce qu'il veut, c'est la puissance américaine retrouvée, la domination américaine retrouvée, et les Iraniens passent par pertes et profits.
Quand vous dites ce sont des totalitaires, est-ce que vous relisez aussi, vous avez parlé aussi de la question de la Shoah, est-ce qu'on est aujourd'hui face à un moment où l'envie est celle d'exterminer ses ennemis? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve cette logique-là?
Écoutez, vous avez parfaitement raison. Regardez, Poutine, regardez Erdogan, regardez Khamenei, regardez Xi, regardez aussi Modi en Inde, n'est-ce pas? L'autre qui ne me va pas, il doit disparaître. Et en fait, vous êtes face à une apologie du règne de la force. Lorsqu'on était en pleine guerre froide, l'Union soviétique s'excusait, n'est-ce pas, faisait semblant, mine de s'excuser lorsqu'il y avait en fait des bavures monumentales, des massacres, etc.
C'était camouflé, c'était caché, là c'est presque revendiqué.
Tout le monde respectait le langage de l'universalité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul langage, c'est le langage de la force. Or le problème que nous avons, nous, c'est que l'Europe est sans force.
L'universalité, c'est fini. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire?
L'universalité, ça veut dire, vous voyez, que où que vous alliez dans le monde, quelle que soit la culture que vous rencontriez, vous aviez dans l'idée que la personne qui était en face de vous, elle avait la même valeur et la même dignité que vous, n'est-ce pas? Croyez-vous que Vladimir Poutine pense que les Ukrainiens ont une valeur égale à lui? Non. Et pensez-vous que Xi Jinping pense que les Ouïghours qu'il persécute, qui sont ces turcophones musulmans de Chine, qui sont égaux à lui? Non. Alors évidemment, cette égalité a toujours été un combat, ne rêvons pas. Mais elle était un principe. Aujourd'hui, ce principe est jeté aux orties, et c'est ça la fin de l'universalisme, et nous devons le défendre, parce que nous y croyons toujours, et nous pensons que c'est la clé de l'humanité, Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens.
Est-ce qu'on peut réveiller,
et nous en sommes loin.
Et est-ce qu'on peut remettre effectivement l'universalisme comme un idéal? Vous avez tout de même dit, Jean-François Colosimo, le problème c'est que face à cela, nous sommes faibles. Est-ce qu'on a les moyens de lutter?
On a les moyens de lutter, surtout si on... Je dirais, si on a une politique volontariste, voyez, regardez comme nous nous sommes réconciliés avec l'Angleterre, qui est l'autre puissance nucléaire, peut-être pas tout à fait égale à nous, mais bon, les deux puissances nucléaires, les Anglais, il y a le Brexit, mais ils reviennent avec nous pour défendre cette, malgré tout, cette vision du monde. Voilà. Maintenant, le véritable carburant, je dirais, de la dénonciation des totalitarismes, des autoritarismes, de cette logique de la force, le véritable carburant, c'est le courage, n'est-ce pas? Ben là, regardons les femmes iraniennes, elles ont un courage que malheureusement, nous n'avons pas.
Que nous n'avons pas. Vous dites aujourd'hui, nous n'avons plus ce courage.
On peut le retrouver peut-être demain, aujourd'hui, mais il va falloir se réveiller et savoir qu'est-ce que nous voulons. Et si nous ne nous réveillons pas, nous subirons.
Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'il y a au fond deux combats parallèles. Il y a le combat des armes, effectivement, et vous n'hésitez pas à dire quels sont les rapports de force sur le terrain, les réalités des uns et des autres. Et puis, il y a un autre terrain de combat, qui est le terrain des valeurs.
Absolument, ou je dirais des principes, parce que vous savez, le point de la valeur, c'est que la valeur, elle n'en a pas. C'est à la bourse, la valeur, ça monte et ça descend. Les principes, mais je dirais tout simplement aussi cette conviction que nous avons, nous, en Europe, parce qu'il y a eu des pages terribles en Europe, des pages sombres, des pages abyssales, n'est-ce pas? Mais la conviction de l'Europe, c'est que l'humanité est facilement en risque d'inhumanité. On devient très facilement inhumain. Donc il faut prévenir cette capacité d'inhumanité. Et pour ça, il y a une chose, c'est toujours de savoir demander pardon pour ce qu'on a fait de plus mal. Et l'Europe a fait beaucoup de mal. Mais nous avons demandé pardon.
La question du pardon, un mot encore Jean-François Colosimo sur les liens entre l'Iran et la France. Il y a bien sûr une grande part de diaspora, on entend régulièrement, y compris sur ce plateau, des témoignages de gens qui ont de la famille là-bas, qui luttent. Mais il y a aussi, semble-t-il, des influences du régime iranien, y compris ici. Ont-ils des relais dans l'opinion? Ont-ils
bien
des
entendu.
Relais dans le monde des affaires? Ont-ils des relais dans le monde du pouvoir?
Bien entendu, l'Iran est très très fort. L'Iran... souvent d'ailleurs, il faut le dire, à travers l'Algérie, qui joue le jeu de l'Iran dans ce cas-là, cherche à déstabiliser la France, n'est-ce pas? Enfin, le régime iranien, soyons clairs. Et en même temps, vous voyez, l'histoire entre l'Iran et la France, elle est si importante qu'il faut tout de même se rappeler, bon, c'est un peu, c'est pas pour être cuistre, que le plus grand connaisseur de l'Iran chiite, qui a révélé aux Iraniens eux-mêmes cette... ce trésor qu'est le chiisme, spirituel, mystique, mais artistique aussi. Hein, les enlumineuses personnes qui donnent le cinéma iranien, si formidable. Hein. Eh bien, c'est un Français, il s'appelait Henri Corbin, et il a vécu en Iran pendant une trentaine d'années, et c'est lui qui a assuré, et aujourd'hui encore, même le régime n'a pas osé l'enlever, il y a une rue, une avenue Henri Corbin à Téhéran.
Il y a donc ces liens historiques, et vous le dites, artistiques, d'humanité aussi, entre la France et l'Iran, mais vous dites aussi que le régime iranien continue à avoir des relais d'influence.
Absolument.
D'abord à travers ses alliés comme l'Algérie, mais est-ce qu'en France, il faut se dire,
oui,
est-ce qu'il y a des espions iraniens? Est-ce qu'il y a une présence iranienne?
Bien entendu, il y a d'excellents livres publiés là-dessus, encore récemment.
La pieuvre de Téhéran, peut-être, c'est à cela que
vous
faites référence.
Mais comme j'en ai été l'éditeur, j'avais du mal à le dire.
Bah je le dis pour vous, alors.
Voilà, bon... et c'est un excellent livre. Il dresse le compte de toutes ces influences. Alors évidemment, il y a aussi des idiots utiles, des gens qui pensent que en étant du côté de l'Iran, ils luttent contre l'impérialisme ou je sais trop quoi. Toutes les vieilles lunes de gauche et gauchistes, n'est-ce pas, fonctionnent aussi. L'anti-américanisme là est un puissant levier pour une fascination à l'égard de l'Iran, qui est une fascination perverse et qui est fausse. Il faut le dire. Voilà. Le peuple iranien mérite tellement mieux. On a tellement envie de retrouver ce peuple avec toutes ces immenses qualités qui sont indispensables au réveil de la région.
Au réveil de la région et au réveil, comme vous le dites, des principes aussi de l'universalisme. Merci Jean-François Colosimo. C'était passionnant. Vous êtes historien, théologien. Je voudrais rappeler le titre de votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Restez bien sur RMC. Dans un instant, la semaine face à Canteloup. Marine Le Pen peut être inéligible. Nicolas Canteloup revient sur l'info de la semaine.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité dans le face-à-face. Et Emmanuel Macron voulait lui dire un mot.
Évidemment.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Salut mes fans. Salut. Oui, bah oui, pour vous, je remets les lunettes de beau gosse.
Hein.
Même si j'en ai plus besoin, vous avez vu, malheureusement, je suis guéri. Voilà, c'est le problème. C'est con parce que j'avais pris une popularité de ouf. Je vais faire confidence à Pauline ce matin. J'ai failli me remettre du tabasco dans les yeux.
Mais non.
On pourra les remettre.
Bon, alors, monsieur le président, un mot sur Roland Lescure.
Mais écoutez, je tenais à saluer Roland, c'est mon gars solide, hein, sur qui je peux compter, mon gars qui va faire disparaître la dette, hein, hein mon Roland, hein, t'as un an pour nettoyer le bordel, hein, c'est pas non plus, hein, c'est pas non plus mission impossible.
Hein. Ah, mission impossible, je l'ai, rapport aux lunettes, ça paraît quand même ambitieux, hein, franchement.
Ben entre vous et moi, bon ben Simon Roland n'arrive pas, c'est pas très grave, hein, comme d'hab, on mettra tout sur le dos de Bruno Le Maire, hein. Moi, je vais finir mon mandat tranquillou sur l'international, je préfère, hein, en essayant d'éviter une troisième guerre mondiale, voilà. Ben oui, vous savez, héros du monde libre, sur un CV, ça sonne mieux que le gars, ou ce qui est marqué sur la carte de visite, a réussi à faire augmenter le PIB de 0,83%.
Merci, monsieur le président. Roland Lescure, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Écoutez, la première chose à retenir, nous avons des bons chiffres. Les chiffres, quels sont-ils? On est passé de 0,7% à 1%. Ce sont des très bons chiffres. Et nous avons baissé le prix de l'électricité, il faut le retenir dans la merde. De 9 euros. 9 euros. Non, par an. Hein, c'est quand même 75 centimes par mois.
Hein,
Il faut arrêter dans ce pays de se flageller sur un grand gabarit à moitié vide. C'est les caisses qui sont à moitié vide. Les caisses sont à moitié vide. Moi, pour récompenser les équipes de merci, toutes les équipes de merci, je leur ai dit, on a les bons résultats, je vous donne, vous partez en congé. Voilà. Je leur ai donné 10 minutes de congé. Ils sont partis sur des belles destinations. À la machine à café, les toilettes, le distributeur de friandises. Voilà, faut recommencer le king.
On sent que vous êtes un optimiste de nature, Roland Lescure. Vous pensez que le gouvernement et vous-même, vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin du quinquennat?
Mais oui, on va tenir. Avec le gouvernement, on va tenir. Au moins jusqu'à la prochaine guerre mondiale. Optimiste, voilà.
Moscato arrive. Vous
voulez
réagir à la
panique
Roland Lescure? Ah, bonjour Vincent.
Oh,
quel stress,
super. Moscato Show. On a le ministre de l'économie et finance, il débarque de Gauze. Il faut qu'il trouve 3000 milliards de pognon. Je l'ai croisé en l'eau, il cherchait la monnaie, tu vois la machine à café. Mais putain, tu me serrais la main, j'ai quand même reconté mes doigts. Tu vois, le mec, il te pique tout, tu vois. Et là, le slip, le portefeuille, j'ai plaqué le slip. Précaution. Les mecs, les patrons à BFM Business, tout plaqué sur la table, ils se cachent, le ministre économie partout.
Voilà, franchement.
Ah ben oui, bah attends, on risque le contrôle fiscal, nous, RMC. Oui. On fait un pognon de dingue, on risque le contrôle. Pour petit déjeuner, t'as vu, ils ont supprimé toutes les viennoiseries. Faut faire pitié. Donc, ils ont acheté chez Lidl, ils ont acheté de la margarine et du pain de mie périmé, on dirait du carton. Pitié dans le parking souterrain, plus de bagnole, Unix. La Porsche d'Aurel Gate disparu, la Jaguar de Marchand, plus rien. La Bentley de demain, j'ai plus rien. La Rolls le chiffre, plus rien. T'as vu juste la Fiat pendant de Texel. Et bien sûr, la bétaillère d'Apolline, parce que quand même, il faut qu'elle transporte ses 4 boutas.
Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, pour, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Attendez, il y a 2032.
Ah, oui, c'est vrai. Oui,
alors, Jordan, il prend le job en 2027, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non,
je... non, mais écoutez, non, écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans.
On revient à présent sur les réquisitions donc au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour, Jean-Louis Borloo. Vous êtes
ancien
avocat d'ailleurs. Hein.
Oui, bon, c'est, mais oui, mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a que des intelligentes sur cette table, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une autre, on s'en fout. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli, voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat, j'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin, bon, bref. Hein, mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation, des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates, des exécutions différées, des exécutions... Il dort déjà, Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable, pardon, on comprend rien, mais pardon, mais les faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis tant, moi, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait, j'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple, à l'époque, tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane, c'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas si le juge à Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, mais
c'est sûr.
Il y a juste un truc, Pauline de Malherbe. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, dans les GG, dans les grandes gueules, nous discuterons de la pression qui est mise sur Jack Lang, la pression politique. Jack Lang qui est cité plus de 600 fois dans les dossiers Epstein. Est-ce qu'il doit quitter l'Institut du Monde Arabe? Jack Lang, lui qui plaide la naïveté, c'est ce qu'il dit vis-à-vis de Jeffrey Epstein. On parlera aussi de ce sondage. Un tiers des Français ne trouverait pas anormal qu'on torture pour obtenir des aveux. Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Là encore, vous venez en discuter avec nous au 32-16. Emmanuel Macron, le président de la République, qui dénonce l'impact des jeux vidéo chez les plus jeunes. Il aimerait une étude et si jamais c'est avéré, eh bien on interdit ces jeux vidéo. Et puis nous recevrons le député Les Républicains, Philippe Juvin. Est-ce que Les Républicains est un parti mort clinique? On verra le diagnostic du docteur Juvin. Allez les grandes gueules, c'est de 9h à midi avec vous au 32-16.